Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un Par ici les sorties consacrées à la peinture, au dessin, à l'art, aux arts plastiques. Et je reçois eh bien mon ami, disons-le, Pierre Richir. Alors on ne va pas faire semblant de ne pas se connaître, on se tutoie dans la vie, on va se tutoyer dans cette émission une fois n'est pas coutume. Bonjour Pierre.
Bonjour Christophe, bonjour Alors, à tous.
L'occasion aujourd'hui d'évoquer donc ta dernière exposition qui est visible chez toi dans un espace magnifique. L'espace Sky Lab, c'est à Saint-Ville, c'est là où tu travailles, c'est aussi là où tu, en partie, tu exposes d'ailleurs, bien évidemment, mais tu aimes bien tester, on va dire, peut-être tes nouvelles créations dans cet espace qui t'est propre, que tu as construit d'ailleurs de tes propres mains.
Hein. Oui, c'est mon refuge, c'est ma grotte, et puis là, je fais ce que je veux, je ne suis pas soumis à aucune contrainte, et donc oui, c'est différent que d'aller ailleurs et d'être obligé de se déplacer, de tout installer et d'être avec d'autres. Enfin, bon, voilà.
Voilà. Puis on fait comme on veut. L'accro, c'est toi qui l'as fait, évidemment.
Exactement.
Et toi qui fais le montage et, du travail. Pourquoi Skylab, ça veut dire quoi, en fait?
Le Skylab, c'était un engin spatial américain, le premier à avoir été mis en orbite et habité.
Ah, donc c'est tout un symbole aussi. On est au milieu du cosmos, en fait,
oui.
Dans ce lieu dédié à l'art. On va, avant de parler de cette exposition qui s'intitule « Pas de paroles oiseuses », alors là, je pense qu'il va falloir que tu nous expliques pourquoi tu as choisi ce titre. Mais avant cela, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ton parcours artistique qui a commencé alors que tu étais jeune à l'école Boulle,
oui.
Qui est une école, comment on l'a qualifiée, d'art appliqué, c'est ça?
C'est ça, c'est une des quatre écoles d'art appliqué de Paris.
C'est une école qui est très exigeante, hein, cette réputation.
Oui, en effet, oui. Les professeurs sont formés, sont des anciens de l'école Boulle d'ailleurs, qui ont fait un parcours dans le public ou dans le privé, et puis qui sont revenus pour enseigner, pour partager leur savoir-faire, voilà. Oui.
Qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce que tu as appris là-bas, en fait?
Alors, j'étais tapissier.
Oui.
C'est avant tout les métiers du bois. C'était au début l'ébénisterie, puisque André Charles Boulle était l'ébéniste de Louis XIV, c'est lui qui a créé l'école. Et puis ça s'est développé autour du métier du bois et de l'ameublement.
Oui, voilà. Mais il y avait aussi un cours de peinture, bien évidemment, avec un professeur qui était assez compliqué, non?
C'est le professeur de mes professeurs, en fait.
Ah, d'accord. Alors, je crois que quand une toile ne lui plaisait pas, il ouvrait la fenêtre et c'était parti, c'est ça?
Oui, c'est
vraiment
ça. Oui, c'est pas arrivé tous les jours. Hein. Mais bon, c'est une petite anecdote qui est drôle et qui en même temps peut expliquer pourquoi certains abandonnent une voie et d'autres, au contraire, s'y accrochent.
Oui, il faut vraiment s'accrocher, oui, effectivement.
Comme dit le proverbe soufi, mieux vaut la dureté d'un maître que la prétendue douceur des parents.
Oui, ça c'est vrai, pour apprendre c'est mieux, rien de tel. Donc à la sortie de l'école Boulle, tu en es sorti bien évidemment diplômé, et tu t'es tout de suite mis à la peinture.
J'ai toujours dessiné.
Toujours dessiné, oui.
Bien avant d'entrer à l'école Boulle, dès 4, 5, 6 ans.
Ah oui, ah, oui, oui. Ah oui, donc c'était tout de suite ton langage privilégié, celui des formes et des couleurs.
Le dessin. Surtout le dessin. Bon, après, oui, mettre des couleurs, c'était rigolo. Mais ça, c'est d'autres paramètres, en fait. Oui. Et quand j'ai eu mes profs à l'école Boulle, il y en a deux qui m'ont ouvert des portes extraordinaires. Et là j'ai eu envie d'explorer plus loin.
Oui.
Donc, je suis allé étudier auprès de leurs formateurs, de leurs profs. Voilà. Et puis, j'ai continué. Surtout dans l'abstrait, parce que je faisais partie d'un groupe qui faisait plutôt de l'abstrait. Et je suis revenu à la figuration en 2012.
Ouais. Oui, parce que moi, je t'ai connu. Tu étais en résidence d'artiste à Chartres,
oui.
Pendant pas mal de temps, rue aux Juifs. Et
ouais.
Tu travaillais encore dans l'abstraction.
Tout à fait.
Abstraction, je sais que tu avais souvent comme livre de chevet, il était souvent là-bas, un livre de Kandinsky, par exemple. C'est une des figures qui t'ont inspiré.
Oui, puisque le professeur dont on parlait, qui s'appelait Gratalou, avait été élève de Mortensen, et Mortensen était un élève de Kandinsky.
Oui.
Donc, par lui, on a eu les exercices du Bauhaus sur la couleur et la forme, etc. C'était extraordinaire.
Oui.
Ouais.
Et ce livre, c'était du spirituel dans l'art, donc il y a toujours eu aussi
c'est ça.
Cet arrière-monde de la spiritualité oui. dans ton travail.
Oui.
Oui.
La spiritualité, voire l'ésotérisme.
Et l'ésotérisme, oui. Alors, qu'est-ce qui fait que d'un coup, tu as complètement changé ? Parce que vraiment, c'est ça. Moi, je me souviens de ton travail qui était vraiment, vraiment totalement abstrait sur les formes géométriques, notamment sur oui. les cercles, mais pas que, évidemment. Et d'un coup, la peinture à l'huile et la figuration.
Oui, une grosse remise en question. Peut-être que quand j'ai commencé, j'aurais voulu faire des figures humaines, par exemple, des scènes de genre, comme j'en fais actuellement. Mais j'en avais pas les capacités, je n'avais pas non plus l'enseignement qui convenait. Et en 2012, enfin aux alentours de 2010-2011, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a guidé aussi, parce qu'il faut toujours être guidé. Et donc j'ai pu remettre tout en question. Je pense que j'avais aussi fait un peu le tour de ma propre cellule dans le domaine de l'abstraction, enfin de l'art non figuratif plus exactement. Et que, en même temps, c'était une redécouverte, c'était une réexploration et reprendre des risques à nouveau.
Oui.
Voilà. C'est ça qui était tentant.
Oui. Et puis, alors, vraiment, à partir de ce moment-là, il y a eu une frénésie de création. J'ai le sentiment que tu n'as jamais autant travaillé qu'après la redécouverte de la figuration.
C'est vrai. En même temps, il y a aussi, dans le travail et dans l'abnégation sur la durée, je pense, une espèce de liberté qui s'installe par rapport aux gestes, par rapport aux émotions aussi, et qui libère une espèce d'énergie supplémentaire.
Oui.
C'est comme le second souffle pour les coureurs de fond, par exemple.
Oui. C'est à partir du moment où tu as découvert donc ces techniques de la figuration, où tu les as maîtriser petit à petit, ça t'a permis d'exprimer autre chose, j'imagine, des choses peut-être plus personnelles, plus enfouies.
Oui, et puis peut-être aussi des choses plus humaines, enfin, plus proches des autres,
oui.
plus compréhensibles par le commun des mortels, j'ai envie de dire, oui. voilà. Mais avec le temps, j'ai quand même réintroduit de l'abstrait petit à petit. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est
un mix.
Oui, c'est ça. Des univers parallèles qui se mélangent, qui s'interpénètrent et grâce à toutes ces expérimentations. Oui.
Oui. Oui. Alors, une chose qui est importante, c'est que tu travailles beaucoup en musique. Moi, quand je fréquentais ton atelier rue aux Juifs, il y avait tout le temps de la musique. Quand je vais au Skylab, c'est pareil. Ça a toujours été très important. D'ailleurs, toi-même, je ne sais pas si je dois en parler au passé ou au présent, mais tu as longtemps composé aussi.
Oui, en effet, pendant une certaine période, plusieurs périodes. Et je crois que je vais le refaire parce que mon collègue, mon complice guitariste va être un peu plus libre puisqu'il a pris sa retraite. Et j'espère fortement qu'on va refaire oui. des choses ensemble, parce que je suis un peu resté sur ma faim sur la musique.
Oui, tu avais donné un concert, d'ailleurs, je m'en souviens, devant ta résidence,
oui.
un concert de musique, en fait, électronique, et accompagné au violon électrique, si mes souvenirs sont bons.
Oui, hein. Électroacoustique, ouais. Oui, c'est ça, avec Benoît Fraîche.
Ouais. Comment tu composais en fait,
alors, je me considère pas du tout comme un musicien, donc je fais plutôt de l'improvisation et j'étais plus sensible à l'aspect de ce que permettait de faire l'analogique, en fait, les systèmes analogiques. Avec les systèmes numériques, c'est beaucoup moins évident.
Ouais. Et en quoi finalement la musique t'inspire ? Parce qu'il s'agit souvent d'une musique très particulière. Je connais tes goûts musicaux. Les auditeurs de Radio Rancel forcément ont entendu parler de King Crimson, ont entendu parler de Brian Eno et de bien d'autres. C'est cette mouvance musicale qui t'inspire.
Oui. Oui, ce sont des gens qui avaient des particularités que j'ai du mal d'ailleurs à trouver dans la musique d'aujourd'hui, qui ont tout risqué aussi pour aller dans des endroits inexplorés, ouais. Mais bon, c'est le cas de Peter Gabriel aussi, c'est le cas de U2 ou de Talking Heads et ou de Pink Floyd aussi, bien oui. entendu, tous ces groupes. Mais j'avais une certaine parenté, enfin un certain lien émotionnel avec Brian Eno parce que sans doute son univers est proche du mien.
Ouais. Tu as été à deux doigts de faire une pochette de disque aussi pour oui. King Crimson. Hein.
oui, à deux doigts en effet. Parce que j'avais pris des cours de guitare avec Robert Fripp, enfin à l'époque où il faisait des stages en fait, il organisait des stages dans le monde entier et il avait l'idée de faire appel à moi pour une des pochettes. Et malheureusement, il n'avait pas mes coordonnées, je n'avais pas laissé mes coordonnées.
Voilà, une négligence coupable.
Oui, une négligence.
On va écouter un morceau de Brian Eno.
Oui.
Ça s'appelle Dark Trees. Tu peux nous en dire deux mots peut-être avant qu'on l'écoute.
In Dark Trees, oui, ça fait partie de l'album qui s'appelle Another Green World, un autre monde vert, édité en 1975. Et c'est un tournant dans la carrière de Brian Eno parce que ça va l'amener à travailler avec quelqu'un comme David Bowie, par exemple, parce que David Bowie a adoré cet album. Et c'est ce qui l'a fait demander l'assistance de Brian Eno. Brian Eno a commencé dans Roxy Music, qu'il a quitté assez rapidement. Et il a eu du succès avec ses deux premiers albums. Et ce succès lui a rapporté de l'argent. Donc il a loué un studio à Londres pour enregistrer son troisième, donc le fameux Another Green World. Et pendant 3 mois, il était absolument sans créativité. Il était absolument désespéré, parce que tous les jours, il y avait une somme d'argent qui partait, il le savait, et il rentrait chez lui en pleurs. Et finalement, c'est l'album qui l'a propulsé.
Ouais. Ouais.
Donc, c'est extraordinaire. Et il avait une façon de travailler assez unique, parce que dans cet album, il y a quand même Robert Fripp, il y a John Cale, il y a Phil Collins à la batterie. Et il les faisait tous travailler indépendamment. Ils venaient les uns après les autres, ils enregistraient leur partie musicale.
Et ils ne connaissaient pas du tout
l'assemblage.
Ils mettaient les pieds, finalement.
Oui.
Ça, c'est intéressant. On va écouter le morceau et puis on revient tout de suite. Thank you. Voilà, on vient d'écouter In the Dark Trees de Brian Eno. Est-ce que écouter la musique quand tu travailles t'ouvre des portes ?
Ça me plonge surtout dans un état favorable. Ouais. J'illustre absolument pas la musique, non, même si non, je joue à mettre des titres sur des morceaux de musique sur mes tableaux. Ouais. Et ça, ce sont des clins d'œil, c'est mon jeu à moi, voilà.
Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que à partir du moment où tu as abordé effectivement le figuratif, donc tu as travaillé un peu, tu as fait pas mal de choses. Tu as fait des séries sur les vaches, tu as fait une série sur une mouche aussi, sur un ver, sur des vers, et puis. Rapidement, il y a d'autres choses qui sont mises en place avec des univers, comme tu le disais tout à l'heure, sorte d'univers parallèle qui d'un coup se côtoient et avec vraiment des histoires. On a l'impression que chaque tableau raconte une histoire que tu n'imposes pas finalement au spectateur. Chacun va peut-être se fabriquer sa propre histoire avec tes images. Tu peux nous dire d'où sortent ces tableaux ?
En fait, ce sont des assemblages. Je travaille un petit peu avec l'ordinateur qui me permet de mélanger des images quand il s'agit de photos, bien entendu, et de faire quelques préparations de composition. Ouais. Sinon, je prendrai simplement des journaux ou des photos et puis je les découperai et puis je ferai mes petits collages. Hein. Ouais. C'est exactement pareil. Ça prend un peu moins de temps et ça me donne un peu plus de possibilités, c'est tout. Voilà le rôle de l'ordinateur, en fait. Et oui, les univers qui se télescopent, ce sont des images d'archives, des images d'actualité, des photos de famille. Finalement, on s'aperçoit que les personnages, ils peuvent très bien se côtoyer dans un espace qu'on leur crée pour raconter une histoire, mais une histoire que parfois même moi, je découvre après l'avoir faite. Tout comme le spectateur peut s'imaginer la sienne en la découvrant.
Oui, parce que finalement, notre psychisme, il est fait comme ça. On est plein d'univers parallèles. Non
oui, en effet, oui.
On est comme un millefeuille, et puis parfois, y a des feuilles qui se rencontrent. Quoi.
Oui, parce qu'on voit bien que certaines odeurs ou certains goûts peuvent évoquer des souvenirs de plus de dizaines d'années en arrière. Donc, c'est un peu ce que ça provoque, oui, bien entendu.
Alors, le climat de tes toiles, je dirais que le climat a changé. Quand tu étais dans l'abstraction, une forme de sérénité se dégageait de ce qu'on voyait, ce qu'on regardait. Et là, c'est comme si, à travers ça, tu avais peut-être exploré ta part obscure, notre part obscure d'ailleurs. On peut être finalement plongé dans l'inquiétude en regardant ton travail, pas que bien sûr, hein, mais il y a aussi cette part d'ombre. Je pensais au titre du livre de Christian Charrière, Le baptême de l'ombre, par exemple. Tant qu'on n'a pas été, on n'a pas eu son baptême de l'ombre, il y a une part de nous-mêmes qui nous reste inconnue. Et on ne construit pas du solide si on ne connaît pas cette part d'ombre.
Oui, je pense que ce que tu évoques, ça, c'est très bien défini par une petite phrase de Frida Kahlo, qui dit que pour accéder au paradis, il faut puiser dans son enfer personnel. Oui. Bien entendu, oui, notre vie, de toute façon, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est pas un boulevard absolument dégagé, et forcément, on se heurte, mais je pense que dans l'abstrait, il y a eu des sensations du même ordre, peut-être qu'on les saisit différemment, ouais. Après, ça dépend évidemment de l'analyse qu'on peut en faire avec son propre matériel.
Oui. Est-ce que le monde qui nous entoure, dans lequel on vit, dans lequel on baigne, t'inspire également ? Et si oui, qu'est-ce qu'il t'inspire aujourd'hui ?
Il m'inspire plutôt la recherche de la solitude. Si je pouvais m'enfermer, c'est London qui écrit L'appel de la forêt, je crois. Donc voilà, c'est un peu mon état d'âme, oui.
Oui.
Ou celui de Sylvain Tesson, par exemple.
De Sylvain Tesson. Oui, c'est une de tes lectures, une de tes découvertes
oui,
de ces dernières
années.
Oui,
vraiment une capacité d'utiliser les mots prodigieuse. Oui. Ah, oui.
Alors, on va peut-être parler quand même de paroles, pas de paroles oiseuses, pardon. C'est donc ton dernier travail que tu nous donnes à voir. C'est jusqu'au 25 juin chez toi, l'espace Skylab à Saint-Ville, je le répète. Pas de paroles oiseuses, quel titre mystérieux.
Oui, encore une fois, c'est un clin d'œil à la musique parce que... y a un album de Brian Eno et de Robert Fripp qui s'appelle No Pussyfooting et que les Anglais traduiraient par pas de bavardage.
Ouais.
Donc, pas de bavardage, bon, ça me plaisait moyennement et donc je me suis plutôt orienté vers ce titre-là.
C'est-à-dire pas de paroles oiseuses, on va directement, on va vers l'os, quoi.
Oui, parce que aujourd'hui, les paroles oiseuses, à mon avis, c'est pas ce qui manque.
Oui.
Tout le monde parle à tort et à travers, peut-être même souvent sans savoir de quoi il retourne. Donc, ce serait bien de faire à nouveau appel aux fondamentaux, oui.
Alors, les fondamentaux, pour toi, c'est quoi, justement donc,
Alors, justement, là, cette exposition, elle va surtout être consacrée au dessin, parce que pendant 2 ans, je me suis énormément concentré sur le dessin. Et je me suis aperçu d'un fait que il y a beaucoup d'ouvrages... et beaucoup d'émissions et beaucoup de documentaires qui s'intéressent à la peinture et qui s'intéressent au travail des grands peintres. Et je pense que les grands peintres sont avant tout de grands dessinateurs.
Bon dessinateur.
Ce sont des dessinateurs hors normes qui ont poussé leurs dessins jusqu'à y mettre des contrastes de valeur et puis des contrastes de couleurs,
oui.
Tout simplement.
Oui.
Et un bon dessin... Un dessin n'a pas toujours besoin de la peinture. Par contre, la peinture a constamment besoin du dessin.
Oui. C'est-à-dire d'une géométrie, de lignes, de...
Quelque chose de solide.
De solide.
Comme notre squelette, en fait. Hein.
Ouais.
Si on n'avait pas de squelette...
À part les monochromes, bien évidemment. Les monochromes...
L'abstraction, c'est un peu différent. Autre. Mais en fait, dès qu'il y a des formes géométriques, ça nécessite du dessin,
ouais,
également. Et une composition et un équilibre. Donc, ouais, on en revient toujours au même malgré tout.
Ouais. Alors, il faut rappeler que quand tu t'es mis à la peinture figurative, parallèlement, tu t'es mis tout de suite au dessin aussi, hein, rapidement. Et toute cette série des rhizomes, notamment, je m'en souviens, qui, moi, me faisait penser à Lovecraft. Je sais que tu es un lecteur de Lovecraft. Ça, je pensais à Lovecraft en regardant, en contemplant ces rhizomes.
Alors, en fait, la série des rhizomes a fait le lien entre l'abstraction et la figuration.
Ouais.
Ça a été un espèce de passage. Alors, pour le coup, plutôt sombre, celui-là, qui faisait vraiment appel à des forces... que moi-même, auxquels je ne pensais pas, que je n'imaginais pas, mais qui se sont révélés. Mais ça ne veut pas dire que c'est néfaste et que c'est mauvais. Hein, c'est pas du tout. Hein. Mais un univers un peu souterrain qui était révélateur, finalement.
Oui. Et c'est un travail assez prodigieux. C'est extrêmement complexe, extrêmement virtuose. Tu t'es étonné, non, quand les premiers rhizomes sont apparus sur la toile, hein.
En fait, c'est l'issue de certaines expériences sur du papier que je plongeais dans des bains, que je froissais et qui révélaient des formes complètement aléatoires. D'ailleurs, aujourd'hui, même dans le dessin, je fais souvent des empreintes et des taches au départ que j'interprète et que le dessin vient prolonger pour créer une image qui soit qu'on puisse réceptionner, quoi.
Ouais, ouais.
C'est un peu du chamanisme, à mon avis.
Tu es dans quel état quand, justement, tu travailles comme ça, là, quand tu travailles le dessin? Ça peut durer... sont de longues séances de travail?
Oh oui, ça peut durer longtemps. Oui. D'ailleurs, le temps n'existe plus.
Oui.
Donc, dans quel état? Le meilleur possible, je pense.
Oui.
J'en connais pas de
meilleur.
Mais
c'est intéressant quand tu dis que le temps n'existe plus. Ça veut dire que réellement, le temps de la création est tout autre. Quoi. Il est autre.
C'est hors du temps, oui.
Oui.
C'est hors du temps. Il y a un mystère, là, je pense.
Oui.
Quant à savoir s'il y a des mots pour le décrire...
Très difficile.
C'est une autre histoire. Oui. Mais je pense que les artistes seront d'accord pour pour trouver un terrain d'entente sur ce sujet, en tout cas, oui, ça c'est sûr.
Alors, qu'est-ce qu'on peut donc découvrir dans cette nouvelle exposition à Skylab ?
Alors, surtout des dessins, mais un dessin qui a encore évolué et qui a encore subi une mutation. C'est vrai que j'ai une tendance personnelle à remplir l'espace. Et depuis quelques mois, il y a une raréfaction. Et finalement, je m'aperçois que je travaille plus sur un mode oriental, voire extrême oriental, dans la relation du plein et du vide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que je ne traite pas sur le support a autant d'importance que ce que je traite. Et c'est leur relation qui fait la...
La toile, finalement.
Voilà, oui. C'est ça.
Donc là aussi, on est dans un univers... Oui, je vois sur le petit flyer... Le blanc est aussi important. On peut d'ailleurs penser, je pense à Neige de Sylvain Tesson. On peut voir ça comme de la neige. On peut
bien
voir,
sûr.
Bien sûr, ouais. Mmh. Oui. Tu as composé le blanc aussi, là. Finalement, le vide est composé.
Exactement.
Fait partie de la composition, je veux
voilà.
dire.
Voilà, oui, oui. Oui, oui.
Il y a également des peintures. On peut aussi découvrir des peintures dans cette exposition.
Alors, oui, oui.
C'est dessin et peinture.
Oui, oui, tout à fait, oui, oui. Bah, de toute façon, on est chez moi, donc j'ai tout... Oui. Tout l'éventail de ce que j'ai
C'est-à-dire
créé
que,
jusque-là.
La personne qui viendra te voir peut éventuellement aussi montrer des choses peintes aussi.
Oui, oui, oui. Oui. Ouais. Oui. De toutes les périodes, même du début.
Même début, début. Oui. Donc c'est, je le rappelle, du 6 mai au 25 juin, il y a des portes ouvertes. Les 27, 28, 29 mai, les 23, 24 et 25 juin de 14h à 19h. Et sinon, c'est sur rendez-vous.
Oui.
Voilà. Donc, on t'appelle. Je donne le numéro de téléphone. Hein.
Oui.
06 01 88 24 22. 06 01 88 24 22. C'est à Saint-Ville. C'est pas loin d'Auneau. Vraiment,
c'est ça.
Ça vaut le déplacement parce que... on plonge dans ton univers, quoi. On plonge vraiment dans le lieu où tu travailles, où tu, c'est un lieu, un laboratoire et un lieu d'exposition. C'est un univers tout à fait étonnant à découvrir. Allez, je redonne le numéro de téléphone avant qu'on se quitte, hein, 06 01 88 24 22. On peut aussi aller sur ton site.
Bien sûr.
Le site est très intéressant parce qu'on peut comme ça suivre aussi ton travail au jour le jour. Évidemment, ce n'est pas comme quand on va voir les expositions et les tableaux en vrai. Enfin, ça donne une petite idée quand même.
Oui.
Et là, il suffit de taper Pierre Richir et on tombe
sur PierreRichir.com, oui.
PierreRichir.com.
Voilà.
Merci beaucoup. On
Merci.
Va se quitter encore une fois avec Brian Eno, un autre morceau. Dis peut-être deux mots sur ce morceau aussi. Là, c'est extrait du même album.
Oui, Another Green World. C'est le morceau qui porte ce titre aussi.
Donc c'est un autre monde plus vert.
Un autre monde vert.
Un autre monde vert.
Oui.
D'accord. Donc il est question d'écologie, j'imagine, peut-être dans cet album, ou en tout cas dans...
C'est plutôt l'idée des cycles qui viennent alimenter la nature, en fait.
Oui.
Telle qu'on la connaît, et puis son renouvellement, son renouveau. Enfin, la nature est toujours la même, mais elle est toujours différente.
Elle est toujours différente.
C'est ça qui est étonnant. Oui. Et...
C'est ce que disait... Le Bouddha, hein, y a rien n'est permanent sauf l'impermanence.
Voilà, c'est ça.
C'est ça. Merci beaucoup, chers auditeurs et auditrices de Radio Rancière par ici. Les sorties, c'est terminé. Je rappelle que cette émission, eh bien, vous pourrez la réécouter sur notre site www.radiorancière.fr en podcast. On se retrouve dans 4 semaines pour un nouveau par ici. Les sorties.